Pierre-Yves, encore des pertes colossales pour Uber, 1,2 milliard pour le trimestre.
Oui, les actionnaires vont commencer à être de mauvais Uber.
Oh,
excuse-moi. Chute du titre de 5,7%. Oui, je sais. Le titre a baissé de 5,7% hier. Bon, écoute, sur les 52 dernières semaines, le plus haut, de toute façon, il n'a pas été en bourse pendant 52 semaines, mais il était à 47 $ américains. Là, on est à 29 $. Ça donne une idée, là, comme quoi je disais au début, excitez-vous pas parce qu'un titre arrive en bourse, ça se peut qu'il y ait des périodes de tourmente. Donc, pour l'instant, on est encore à 53 milliards de valorisation boursière, mais sous la promesse de dominer le monde, tu sais, d'avoir, de réussir à étendre des tentacules partout. Et là, on nous promet un bénéfice, mais opérationnel pour 2021. Ça veut dire que c'est le bénéfice avant les charges financières et autres charges. Donc, c'est un bénéfice intermédiaire. Mais pour l'instant, on perd de l'argent. Tu sais, tu perds 1,2 milliard pour un trimestre, mais tu fais 3,8 milliards de revenus. Évidemment, on est allé en bourse, on a rémunéré des gens. Lyft fait une grande concurrence, faut payer pour ça. Mais mettons que tu es un chauffeur Uber ce matin. Puis tu regardes ça. Tu te dis, OK, c'est quoi leur solution pour que l'actionnaire soit content? Augmenter le nombre de courses, ce qu'ils essaient de faire, le 31% d'une année à l'autre, réduction des coûts, donc le salaire des chauffeurs ne peut pas augmenter de façon faramineuse, on ne fait pas d'argent, ou charger plus au client. Bon, là, le client est habitué de payer en fonction de l'offre et la demande, mais est-ce qu'on peut lui en demander plus? Est-ce que le client, à un moment donné, va se dire « Oh, c'est juste un peu trop ». Je vais te faire un parallèle avec Ashton ce matin, Paul.
Mm-hmm.
Tu sais qu'Ashton a décidé de monter le prix de sa poutine de nuit?
Oui, je pense que c'est quoi, c'est 12%?
12%. Mais c'est un peu normal. Tu vas augmenter tes revenus dans la nuit, ça te coûte plus cher. Et là, les gens disent, oh, une modulation du prix en fonction des coûts, c'est bien drôle, ça. Mais dans le fond, on le fait chez Uber. Donc, on pourrait le faire ailleurs. Donc, Uber a ouvert une espèce de boîte d'utilisateurs-payeurs, off-demande. Et là, tes chauffeurs, aujourd'hui, tu te dis, est-ce que j'ai de l'avenir chez Uber pour en développer une carrière? Ben, la réponse, c'est non. Si tu fais du Uber, c'est que tu fais le calcul que c'est un horaire flexible, c'est temporaire, c'est complémentaire. Mais si tu fais ça à temps plein, il faut que tu dises « Hey, je paye la voiture, je prends le risque d'affaires, je paye les assurances, je paye l'essence, je paye l'usure, je me paye beaucoup d'amortisseurs parce que je suis à Montréal avec les nids de poules. » Donc, il faut éventuellement que je sois payé à ma juste valeur.
Mais là, tu parlais de la... En fait, du profil général de Uber. C'est un Uber qu'on connaît, t'as Uber Eats, là, le transport de la bouffe. Là, ils s'en vont dans le secteur
de la livraison.
Est-ce que tu penses que Uber va vraiment faire de l'argent un jour?
Oui, ils vont faire des profits éventuellement parce qu'il y a tellement de revenus éventuellement qu'ils vont bien éventuellement trouver une façon de réduire les coûts. Tu sais, le jour où il y a une voiture autonome, et là on est ailleurs, hein, tu sais, on ne paie plus les chauffeurs, donc c'est plus loin, c'est futuriste, mais chose certaine, en étendant tes tentacules, en créant un effet de réseau, si tu réussis à surpasser Lyft et autres, tu vas y arriver. Là, ce qui te fait mal présentement, c'est qu'il y a des États, comme la Californie, qui disent « Attention, tes chauffeurs Uber, c'est pas des travailleurs autonomes, c'est des salariés. » Et là, faut que tu te battes contre ça, parce que si ça devient ça, faut que tu paies des avantages sociaux dans le monde comme des salariés, et là, t'es sur un autre modèle d'affaires complètement.
Ben, c'est la Californie ou New York? Je pense que c'est la Californie, où on a reconnu que c'était des travailleurs, que c'était pas des partenaires ou des, comment t'appelles ça, des associés. Là.
Des associés de l'économie de partage, travailleurs autonomes, slash tout ce qu'il faut là, pour porter les charges sociales.
C'est exactement. Bon, la semaine de 4 jours qui est testée par Microsoft.
Oui, et là, il y a des gens hier sur Internet. C'est la solution, faisons ça au Québec. Wow. Bon, premièrement, Microsoft a fait un test, a donné congé le vendredi durant seulement le mois d'août à ses employés parce qu'ils travaillent beaucoup, il fait chaud au Japon l'été. Donc, on a dit, OK, on va réduire puis on va limiter le temps de réunion. Bon, ils ont vu qu'il y avait une augmentation de la productivité des employés. Bon, de 39%. Comment tu mesures ça? C'est compliqué. Mais tu sais, le Canada puis le Japon, c'est deux mondes. Tu sais, au Japon, il y a du monde qui meurt d'épuisement au travail. Tu sais, il y a des gens qui travaillent beaucoup trop. Alors, eux, peut-être qu'ils atteignent les horaires de vie qui font en sorte que t'es au travail, mais t'es plus capable de travailler parce que t'es épuisé, donc ta productivité plafonne. Mais tu peux pas demander à tout le monde de faire en 4 jours ce que d'autres font en 5 parce que ça fonctionne pas. Je te donne des exemples. Si jamais t'es réceptionniste ou gardien de sécurité, faut que tu sois présent à un poste. Donc, même si tu voulais faire 4 jours en 5, la 5e journée, tu peux pas gagner en productivité. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire du 4 jours semaine en réussissant en étant plus productif. Comment? C'est en étant propriétaire de leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs et tu peux mesurer ce qu'ils font. Par exemple, tu leur mets des objectifs spécifiques. C'est-à-dire qu'ils contrôlent le résultat. que c'est mesurable, que c'est ambitieux, que les objectifs sont réalistes, puis qu'ils sont définis dans le temps. Une fois que tu as fait ça, tu peux dire à quelqu'un, regarde, je vais te la donner ta semaine de 4 jours. Si tu es capable de faire en 4 jours ce que tu es supposé faire en 5, puis qu'on est capable de le mesurer et que tu as une obligation de résultat, ben vas-y. Là, on gagne la productivité.
Mais, tu sais, je pense aux gens qui habitent deux montagnes, là, qui vont être confrontés, je ne veux pas faire un rappel sadique là, ce matin, oui. Mais au mois de janvier, à la réalité du déplacement de deux montagnes vers Montréal, là, je sais qu'il y a beaucoup d'employeurs qui s'ajustent. Il y en a qui vont ouvrir des bureaux temporaires à proximité, justement, pour aider leurs employés, ou en tout cas le plus près possible. Mais ça, c'est le genre de truc, là. Si tu veux que ton employé soit productif, puis là, ça dépend du type d'emploi, mais tu peux pas lui demander de venir 5 jours par semaine, aller-retour, dans un contexte comme ça, où ça va te prendre 5, 6, 7 heures de plus par semaine.
Oui, puis regarde, je te donne un exemple. Mon éditeur, ce qu'il a fait, ce qu'il dit à ses gens, regardez, on va commencer à faire du télétravail. Donc, travaillez de chez vous et travaillez un peu au bureau. Faisons un échange. Donc, soyez productifs à la maison. De toute façon, vous avez des objectifs mesurables, vous avez des livrables à faire. Et on va vous permettre de voyager moins. Dans tous les emplois qui se font de la maison, ça se verra de plus en plus. Le télétravail, c'est pas juste... des fois, c'est mal vu par les gens parce qu'ils se disent « Ah, télétravail, tu travailles moins fort à la maison. » Non, non. C'est que t'es maître de ton temps.
Ça prend de la discipline, par exemple.
Ben, ça prend de la discipline. Faut que t'aies un livrable. Tu sais, c'est une obligation des résultats. Si t'as, par exemple, t'es programmeur, puis tu dis « Faut que t'aies programmé telle fonction du logiciel pour telle date, ben, c'est toi qui es maître de ton temps, puis tu peux le faire de chez vous au travail. » L'avantage chez vous, tu te fais pas déranger par tes collègues qui veulent te compter leur veille, leur fin de semaine puis leurs difficultés amoureuses. T'sais.
Bonne fin de semaine. Salut. Bonne fin de semaine, j'allais dire. Bonne journée. Oui, bonne journée. Et on se retrouve demain. Il est 7h20.